le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Mathurin Bolz, qui est acrobate et qui est là pour un spectacle, Ninette Inferno, un projet de théâtre musical pour un acteur, un acrobate et un orchestre. Tout un programme imaginé par Roland Osé. Et nous sommes aussi en compagnie de Bertrand Santini, qui est là pour son dernier roman. Moi, je les aime tous, donc ça continue, c'est bien, on verra le prochain. Hein. Mais là, pour l'instant, je me suis régalée avec Hugo de la Nuit, qui est paru aux éditions Grasset et Jeunesse. Carmela et son ami le grillon Negrito ne sont plus dans notre petit village de Haute-Ariège et cela m'intrigue, pour ne pas dire que leur absence m'inquiète. Ils m'ont laissé quelques enveloppes à ouvrir à des dates bien précises. Je vous lis la première enveloppe. Nous sommes partis sur les routes pour dire et distribuer ce poème et bien d'autres encore la veille des meetings de la campagne présidentielle de tous les candidats et de la candidate. Bien entendu, nous disons aussi et nous distribuons également ce poème et les autres sur les chemins et dans les plus petits villages. Ce sonnet est un sonnet de Shakespeare et il a beaucoup de succès, alors tu pourrais peut-être le lire à tes auditeurs. Bien, je vous le lis, j'espère que ça vous intéresse. Fatiguée de ce monde, je demande à mourir. Lassée de voir qu'un homme intègre doit mendier, quand à côté de lui des nullités notoires se vautrent dans le luxe et l'amour du public, qu'on s'amuse à cracher sur la sincérité, que les places d'honneur sont pour les plus indignes, qu'on offre des corps vierges à des désirs brutaux, qu'on couvre d'infamie le juste diffamé, qu'un fort devient infirme au pouvoir du difforme, que l'art est bâillonné sous un règne arbitraire, que des singes en docteurs décident du génie, qu'un être simple et vrai est traité de stupide, que le bien asservi est esclave du mal. Fatigué de tout cela, je veux quitter ce monde. Nous, Negrito et Carmela, ne sommes pas d'accord avec le dernier vers de Shakespeare, car nous ne voulons pas quitter ce monde, mais nous voulons le changer. Qui nous aime nous suivre ? Mathurin Bolz, vous êtes acrobate, mais j'allais dire plus que ça, non pas que être acrobate ce n'est pas suffisant, si, bien sûr, mais dans Ninette Inferno, l'acrobate joue comme un acteur, avec son corps, avec son regard, avec l'acteur qui, lui, dit des textes. Et Pascal Grégory ne dit pas n'importe quel texte, mais sans doute adapté, mais des sonnets de Shakespeare. Vous ne connaissiez pas celui que Carmela et Negrito m'ont laissé dans la petite enveloppe ?
Non, je ne le connaissais pas.
Alors on voit là que j'en profite pour qu'on dise deux, trois mots de ces sonnets de Shakespeare, qui sont à la fois des sonnets politiques, mais aussi d'amour. Et d'amour qui peuvent étonner pour son époque, puisqu'on y voit aussi bien l'amour pour les femmes, mais aussi la passion amoureuse pour un homme que vous incarnez.
Un jeune homme même.
Même un jeune homme. Et vous êtes magnifique d'ailleurs, vous êtes torse nu avec un petit gilet.
Oui.
Et vous allez, alors je ne sais pas comment la mise en scène s'est faite, sans doute au plateau. Alors il y a des agrès, on va dire. Décrivez déjà le plateau, parce que sinon ça va être compliqué pour les auditeurs.
Alors, dans ce spectacle, effectivement, il y a un plateau un peu particulier. C'est un plateau suspendu qui fait 6 mètres par 4, qui est suspendu par 4 fils. Et il y a un trou en son centre, un trou rectangulaire. Et cette plateforme, du coup, peut monter, descendre, s'incliner, soit vers la face, soit sur le côté. Et ça offre ainsi des espaces partagés ou partageables. On peut couper l'espace, on peut le réunifier, on peut plafonner cette machine et on ne la voit pas. C'est comme ça que le spectacle commence. Donc c'est un agrès qui est, alors j'appelle ça agrès parce que dans le cirque
il se balance aussi.
Et c'est ça, c'est que c'est un outil, un espace scénographique qui permet de développer de l'acrobatie. Alors on a tendance à appeler ça des agrès parce qu'ils offrent du jeu, mais ils offrent plus que du jeu. Ils offrent aussi un espace mental dans lequel évoluent ces deux personnages. Pascal Grégory qui joue, alors vous avez parlé de Shakespeare et de ses sonnets. Il y a aussi les sonnets de Pasolini qui ont été très tôt dans le processus de travail. Et aussi le Ninette Inferno, ça vient de Ninetto, un jeune amoureux de Pasolini. Et du coup, dans cette relation entre les deux, et ben voilà, il y a l'espace de la parole qui est pris par Pascal. Et moi, je suis l'objet de son désir. Et je m'applique à me rendre désirable à ses yeux et à le fuir aussi absolument, parce que c'est ainsi que l'histoire est écrite.
Alors c'est une fuite comme une danse, c'est-à-dire on s'éloigne, on se rapproche, on se frôle, on se tourne autour. Et cette danse, ce balancement, même si les corps, voyez, jusque sur dans notre studio aussi, le décor se déplace malgré nous. Donc, la chute, mais personne n'est blessé. Donc, Mathurin Bolz, les corps sont, bien sûr, il y a la violence des mots, qui est terrible, notamment sur le texte de Pasolini. Mais c'est du désespoir, il y a une force immense. Et les corps, bien qu'ayant parfois des jeux un peu violents, ces chaises qui sont balancées par moments, etc., ramènent quand même de la sensualité, de la douceur. C'est ce mélange qui est très troublant pour moi.
Ben oui, mais je pense que c'est ce qu'il y a de magnifique dans ces sonnets, qui est aussi bien ceux de Shakespeare que de Pasolini, c'est que ça fait, il est question d'amour, il n'est pas question d'homosexualité, il est question d'amour et de désir. Et on sait que la résistance démultiplie la sensualité, l'impossibilité fait grandir le désir, et que dans cet espace-là, il y a une critique du monde dans lequel tout ça s'inscrit. Alors, j'espère que c'est très sensuel. En tous les cas, on a travaillé autour de ça. Je pense à la musique. On n'a pas parlé de la musique au milieu de tout ça.
On va l'écouter d'abord. Ouais. Alors, on va écouter un premier extrait. Et donc, on va entendre les vers. Mais on va entendre aussi, si j'ose dire, la scénographie et votre travail muet pour la parole, mais tellement sonore pour le corps.
Tu vas obtenir ce que tu voulais. Une jeune abrutie va devenir ta femme. Une maison noire de style fasciste, ton nid. Une circulation étourdissante sur un misérable et prétentieux boulevard de banlieue sera ta paix. Et une meute infidèle de parents sera ton monde. Ah, mais bravo, hein, formidable. C'est donc vivre ainsi qu'était ta volonté contre la mienne. Honte à ton cœur qui fait gémir le mien. Honte ! Honte !
Donc c'est le début du spectacle, presque. Hein, on est au début, Mathurin Bolz, et là c'est Pasolini. Vous n'avez pas choisi les textes, vous.
Non, ça c'est un travail que Roland a fait.
Roland Osé,
et qui s'est affiné après avec Pascal Grégory.
Et comment vous inspire ce qui est dit ici, Pasolini?
Oui, ben précisément sur ces mots-là qui sont dits, tu vas choisir ta femme, tu vas habiter une maison de style fasciste. Moi je suis prostré à ce moment-là, je suis assis en boule par terre et je reçois ce tombereau d'injures, en quelque sorte, en sentant bien que il y a probablement une vie plus exaltée, plus risquée, plus poétique, plus brûlante qui me serait offerte en assumant la liaison avec cet homme. Et ma manière de le vivre, c'est toujours de me dire, est-ce qu'aujourd'hui je suis pris moi-même, Mathurin, dans ces travers-là, ou est-ce que je suis assez réveillé et en vie? Moi, ça, c'est toujours des choses, c'est mon travail d'acteur, je vais dire.
Oui, parce que vous êtes acrobate et acteur.
Mais En tout cas, je fais pas de différence. Hein. C'est à partir du moment où on fait du spectacle vivant, c'est la question d'être vivant sur un plateau. Donc, alors l'expression, elle est par le regard, le visage, le corps, la vibration, la posture dans l'espace. Tout ça est un jeu de sens. Et pour rendre ça vivant, donc là où je pense que c'est l'équivalent d'un boulot d'acteur, c'est de me dire à quel endroit je le relie à de l'intime.
Et l'intime peut se faire par le corps jusque dans l'acrobatie?
Ah ben je crois, oui, fondamentalement. Enfin, ce que j'espère du cirque et le langage que j'ai choisi après avoir fait un peu de théâtre, après m'être posé la question, comment être éloquent sur un plateau, comment faire sens et s'adresser à tous. Alors moi, par rapport à ma manière de parler, j'ai résolu que c'était pas forcément par les mots, même si évidemment les mots sont premiers dans mon désir de faire des spectacles quand c'est moi qui les fais. Mais à un moment donné, ma manière de transmettre ou de partager, c'est par le corps, en espérant que du coup il y a un accès possible à ce déferlement de sens, de jeu de sens, qui soit très accessible.
On va écouter un deuxième extrait.
Écoutez, Seigneur, cette histoire estivale. C'était l'été, la nuit. Une voix s'éleva derrière un homme. C'était un garçon. Ils se prirent par le bras et le voyage de la vie commença.
Vous êtes sur France Culture, le temps buissonnier, Aline Paillet et Mathurin Bolz pour Ninette Inferno, un projet de théâtre musical pour un acteur, un acrobate et un orchestre. Parlons un peu de la musique, Mathurin Bolz.
Ah ben alors Roland Osey, qui est à l'initiative et le metteur en scène de cette pièce, a écrit la musique pour l'orchestre de Barcelone, 80 musiciens, et la première représentation a eu lieu avec de part et d'autre de la scène 40 musiciens à jardin, 40 à cour. On était pris dans le son, c'était magnifique à vivre. Et puis pour des raisons économiques, bien évidemment, ce projet s'est transformé, mais il y a gagné beaucoup à mon sens, en une partition pour un quatuor à cordes, le quatuor Debussy, qui du coup a permis plus de finesse, je dirais, de modularité dans les sons, dans les espaces aussi, puisque du coup ils sont présents au plateau, ils se déplacent, ils jouent pas dans une même place sur le côté, mais ils vont avoir un jeu bien plus présent que ce n'était possible avec l'orchestre. Et il y a un plaisir immense à jouer avec des musiciens sur un plateau.
Alors, il y a le rythme des textes, des sonnets, bien particuliers en plus. Il y a le rythme de la musique, il y a le rythme de Pascal Grégory qui dit ses textes et ses vers, ses sonnets. Est-ce que tout cela est contraignant pour l'acrobate? Est-ce que vous aussi, comme un danseur, vous glissez dans cette rythmique?
Le corps est musique aussi, hein.
Mais vous pourriez être en rupture. Vous l'êtes parfois.
Par moment, oui. C'est-à-dire, tous les ingrédients sont mélangés. Donc, il s'agit de trouver sa partition à l'intérieur de tout ça. Et je dois rajouter la musique électronique. On l'a pas citée, mais il y a une partition de musique électronique en plus qui vient s'insérer très finement. Là, une partie de ce qu'on a entendu, les PIDs, là, les accroches de violon, sont faites en même temps en direct et en même temps sur une bande enregistrée, sur de la musique électronique. Donc, du coup, cette circulation des mots, des espaces, des rythmies du corps, tout ça doit faire musique. On va parler d'une musicalité de l'ensemble. Et moi, mon plaisir, c'est de la faire sonner ou de chercher à être partenaire des musiciens comme eux sont partenaires d'un acrobate ou d'un comédien. Enfin, à cet endroit-là, il n'y a pas de chose qui préexiste à une autre. Même si les sonnets de Shakespeare ou ceux de Pasolini, évidemment, préexistent à la pièce, que la musique aussi est écrite avant qu'on se retrouve au plateau. Mais une fois qu'on met tout ça ensemble, alors on a travaillé cette matière, on a coupé des phrases, on a changé des sons, on a fait évoluer les choses pour que l'écriture au plateau trouve son organicité.
Alors, Mathurin Bolz, vous jouez donc le 21 mars, donc là, il faut vraiment y aller si vous habitez à Toulon, au Théâtre Liberté. Alors, et en voilà. Plus, ça, c'est pas mal hein, pour ce spectacle. Est-ce qu'il y aura d'autres occasions de voir Ninette Inferno?
On espère, suite à ce projet-là, mais pour l'instant, on en est encore au début de cette aventure.
Ah, bon, j'espère que, qu'elle va continuer,
mais
qu'on va
aussi
pouvoir venir nombreux la voir. Mais vous jouez d'autres spectacles. Alors là,
oui,
vos spectacles, on pourrait
ça,
dire.
Oui.
Il y a Fenêtre et il y a Le Baron Perché. Fenêtre,
voilà.
Un mot sur Fenêtre?
Fenêtre, bah c'est un spectacle que j'ai fait il y a 17 ans,
oh,
que j'ai transmis à un jeune homme. Et du coup, ça m'emmène très vite à Baron Perché, puisque Baron Perché, que j'écris au pluriel, en référence bien sûr à Italo Calvino, c'est la suite de Fenêtre, 17 ans après, 15 ans après, dans le même espace, dans la même scénographie. Le personnage se dédouble, se voit plus jeune ou s'imagine plus vieux, et du coup, on est deux pour cette suite.
Et vous pouvez, 17 ans après, la vie d'un acrobate par rapport à celle d'un danseur, elle est encore plus brève, non?
La vie est brève, oui.
Pour tout le monde, ça c'est clair.
Et oui, et bien sûr, oui, il y a ces enjeux-là de durer dans le temps avec un travail physique un peu pointu, exigeant. Eh bien, je découvre un peu ce que c'est que les difficultés du corps. Et en même temps, je fais durer tout ce que je peux parce que j'ai un plaisir immense à danser ou à rebondir sur mon trampoline et à partager la scène avec un jeune acrobate, Karim Messaoudi, avec qui... comment dire, qui me donne un second souffle aussi.
Alors, Fenêtre, on pourra le voir à Villefontaine, pas très loin de Lyon, 23-24 mars, puis à Auch, 29-30 mars.
Oui, Fenêtre et Baron Perché le 30.
Voilà, oui. Et Baron Perché le 30. Juste une question quand même, le jeune public, je ne sais pas, ado, comment reçoit-il ce travail physique, musical, poétique, sensuel, d'une force.
Eh ben, je crois que étonnamment, c'est au contraire. C'est, on devrait s'étonner de supposer que les jeunes n'aiment pas ça ou ont peur de ça. Voilà. Ouais. C'est les mots qui a écrit dans le hall du théâtre des Louvrais, là où on joue à l'Apostrophe à Cergy Pontoise ces quelques jours passés, où des jeunes gens qui sont en troisième écrivent que c'est un endroit de plaisir et de sensation, que ça leur fait du bien de changer des écrans, qu'ils prennent conscience. Alors je lis ça sur un travail de fond qui est mené par les gens du théâtre, avec François Verret en l'occurrence, là, et je prélève ces mots pour me dire, mais on peut avoir confiance absolue dans la vérité du moment et d'un espace de partage quand on est avec un public dans une même salle, dans un même lieu. Alors je pense que tous les a priori se transforment. L'expérience peut être parfois un peu brutale, c'est-à-dire que d'avoir des gens en vrai et de se dire qu'on peut pas parler comme devant sa télé, qu'on ne peut pas manger pendant... Mais quand hier soir... mon ami Frédéric Marolo, qui est au son, avait des jeunes gens juste devant lui qui disent « Eh ben ça, c'est des bonhommes », en parlant de nous. Mais ils ont 14-15 ans, ces jeunes gens qui parlent d'acrobates et qui disent « Ça, c'est des bonhommes ». Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui se joue là.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr. Merci beaucoup,
merci.
Mathurin Bolz. Et là aussi, de la même manière, presque... D'abord, Shakespeare n'est pas loin non plus avec vous,
lien.
Bertrand Santini.
Il y a une citation.
Hugo de la Nuit, il y a une citation. Pourquoi Shakespeare?
L'enfer est vide, tous les démons sont parmi nous.
Voilà, ça commence bien, c'est de la littérature jeunesse. Et vous aussi, vous avez l'habitude quand même de... C'est pour ça que je le dis dès le début, vous pourriez... inquiéter des adultes qui ne font pas confiance à leurs adolescents, voire enfants, pour la lecture et qui, en se disant, ils vont être effrayés parce qu'il s'agit de morts, de fantômes, de cimetières, de tombes, de... Voilà, un univers que vous aimez beaucoup, très baroque et plein d'humour, mais plein de gravité aussi, c'est ça que j'aime chez vous.
Oui, le mélange, c'est
ben oui.
Comme la vie. Mais il n'y a pas de sujet, je pense, qu'on ne doit pas traiter, même quand on s'adresse pour la jeunesse. Cela dit, moi, je n'imagine jamais que j'écris pour la jeunesse. C'est une distinction qu'on m'a attribuée.
Ouais.
Mais j'écris pour l'enjeu. Et le jeu, c'est d'écrire pour tout le monde. C'est-à-dire arriver à sortir des récits qui peuvent à la fois intéresser les enfants et les adultes. Et chacun trouve son niveau.
Et au Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil, j'avais été très étonnée parce que nous étions ensemble à une lecture d'enfants qui préparait un concours de lecture orale et des petits de primaire avait, à plusieurs,
ah oui,
avait choisi, oui, des extraits de Hugo de la Nuit. Moi, je me suis dit, mais c'est dingue, quoi, parce que c'est quand même, voilà, c'est une langue.
J'avais été très surpris par l'attitude des enfants, leur intérêt. Effectivement, c'est vrai que c'est, pour un livre jeunesse, il y a une certaine complexité.
Oui, la structure, voilà, du livre, voilà, est complexe.
Voilà. Alors, il faut rendre hommage au travail des enseignants. Oui. Parce que les enfants avaient cette curiosité.
C'est vrai.
Parce qu'il y avait un travail d'enseignant derrière. Oui. C'est une jeune fille à qui j'ai un petit peu parlé après. Leur travail est extraordinaire.
Mais moi, j'ai parlé avec une jeune fille pas plus tard qu'hier, de Montreuil, 12 ans. Et elle me dit, le bout de la vie, c'est la mort. Je le sais. Après la mort, j'en sais rien. Et ce qui me fait peur, c'est de ne pas savoir.
Wow. Mais j'espère qu'elle gardera cette peur-là, parce que je crois que la pire des choses, c'est quand on y répond avec des solutions qui me semblent les pires.
Alors vous allez loin, parce que alors, je voulais commencer par le prologue et je vais aller vers la fin, parce que à la fin de ce roman où il y a énormément de rebondissements, où on va passer d'un plan à l'autre, d'une réalité très concrète à un monde fantastique du côté des morts, des fantômes, etc. Le jeune héros Hugo va se retrouver devant un choix assez terrible. Je vais lire un extrait pour qu'on entende aussi la langue de Bertrand Santini, qui est aussi une langue sonore, poétique, souvent drôle et subversive aussi. Ces mots semblaient si limpides désormais. L'enfer est vide, tous les démons sont sur la terre. Et comme l'assemblée mensongère les promesses de son enfance, et combien vaines et viles paraissaient les prétentions des vivants. Contre cette luminosité factice, la douceur de la lune, la pénombre du trépas, se révélaient plus sincères et plus sûres. « Je ne veux pas revivre, je veux rester avec vous. » Les fantômes eurent une expression de stupeur. « Que dis-tu ?» rugit le pomandaire. « Je ne veux pas retourner chez les hommes. Ce sont des tricheurs, des voleurs, des tueurs. »« Allons, allons, mon bonhomme, rétorqua Poudevigne, Débonnaire. Bien sûr, les trois quarts de l'humanité sont de parfaits crétins. » Mais sur des milliards, ça fait encore un paquet de gens bien. Des larmes inondaient le visage d'Hugo. « S'il vous plaît, gardez-moi. »« C'est impossible, » l'implora Violette. « Tu dois reprendre le cours de ta vie. »« Mais vous disiez que la mort valait mieux que la vie, » fit l'enfant d'une voix brisée. « C'était pour te consoler d'être mort, » répondit la jeune femme bouleversée. « Nous ignorions que tu aurais la possibilité de revivre. »« Tant qu'à naître, autant vivre, » dit Dame Betty avec un sourire. « Alors vas-y, fais le grand saut. » Elle est si belle, la vie. Adélaïde eut une moue sceptique. Blottie contre Violette, Gertrude contenait bravement ses sanglots. Tu viendras de temps en temps sur ma tombe, promis? Hugo la serra fort dans ses bras. Je voudrais rester près de toi. Je voulais aussi, murmura la fillette, mais à bien y réfléchir, je préfère avoir un amoureux vivant plutôt que mort. Alors, cet extrait d'abord. Ça vous touche, Martin Rimbaud?
Ah bah oui, ça me rend très curieux.
Ah ouais, alors c'est la fin du livre. Hein. Donc Hugo est placé devant un choix. On va pas dire le choix qu'il va faire, mais en gros,
happy end.
On y parle aussi du suicide.
Non, je dirais pas ça. Non.
Vous iriez pas jusque-là?
Non, pas le suicide. Non. Non, c'est ouais. Non, il y a beaucoup de sujets traités, mais pas le suicide. Bon, de manière indirecte, dans le fond, c'est un enfant qui découvre, qui sort de l'enfance en fait.
Ouais.
Voilà, c'est la jonction, c'est le moment de crise. C'est une crise d'enfance. C'est un enfant qui sur lequel tombe brutalement la réalité et la violence du monde. Et qui met en place un jeu de rôle, qui met en place un rêve, qui devient metteur en scène d'une aventure, dans lequel va se négocier et se débattre la question de « vaut-il mieux vivre ou ne pas vivre ?»
To be or not to be.
Oui, je m'aperçois que j'ai osé ça. Non, mais... Voilà, donc intellectuellement, voilà. Les fantômes, en fait, on m'a dit oui, mais c'est assez étrange parce que le personnage finalement de cet enfant s'endort et disparaît un petit peu du récit. Mais en fait, les fantômes, démultiplient les voix intérieures de l'enfant et finalement vont débattre à sa place, enfin vont porter sa contradiction et chaque fantôme va apporter sa contribution au débat, les arguments pour, les arguments contre. Voilà. Et finalement, je pas à peine de,
oui,
pas
de suspense,
il y a le corps va décider à sa place.
Ce qui est magnifique pour un adolescent.
Oui,
enfin, ce passage de l'enfance à l'adolescence.
Oui, oui, le corps choisit la vie.
Alors, au milieu de tout ce roman, il y a beaucoup de péripéties et on va y traiter de choses très importantes aussi, très concrètes, très réelles. On voit la mère qui est devenue un auteur à succès à qui on demandait
oui,
de prendre.
J. Caroline.
On voulait qu'elle ait un pseudonyme avec un nom d'homme parce que ça se vend mieux le fantastique écrit par des hommes. Mmh. Donc là, on y traite évidemment les questions.
C'est des petites touches au début. Oui. Le livre, pardon, commence sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'intrigue. Mmh. Mais en fait, c'est tous des éléments qui vont venir comme des sous-textes, qui vont finalement nourrir le rêve de l'enfant. L'enfant, en fait, nourrit son rêve de tous ces éléments anxiogènes et de pression qu'il y a dans la réalité et qui sont évoqués dès le début.
Y compris les pressions familiales, les grandes questions comme l'or noir, qu'est-ce qu'on fait
de... Oui, alors là, on rentre dans l'intrigue pure, la contrainte vient de... C'est le côté un peu aventurier de l'histoire où la présence de pétrole sur le terrain appartenant à cette famille va créer une pression et une menace.
Enfin, quand même, et pour moi, c'est vraiment, j'adore ça. Hein. Vous aimez surprendre, vous aimez aussi ce monde des cimetières. Vous en parlez très très bien d'ailleurs. Vous les décrivez avec beaucoup de poésie, notamment les vieux cimetières. Un cimetière fantôme en somme. Il fallait descendre 11 marches taillées dans la roche pour accéder à ce cocon hors du temps, un paysage de stèles et de croix éparpillées dans un champ d'herbes folles. Les sépultures dressées sur les parois en pente douce évoquaient l'atmosphère d'un théâtre antique. On a envie de s'y promener dans vos cimetières.
Moi, j'ai toujours vu les cimetières pas du tout comme des endroits tristes. Enfin, j'y passerai pas ma vie non plus, mais c'est quand même des endroits pas du tout de terreur, mais de repos, de calme. Je trouve que...
Et puis, il y a presque des adresses aux adolescents qui se perdent parfois dans les mondes fantastiques, qu'ils soient dans les jeux vidéo, dans les romans, fantasy. À un moment donné, vous le dites, lorsqu'Andy se montrait trop envahissante, Hélène savait mettre un terme à ce jeu. Il n'est jamais prudent de laisser les êtres imaginaires prendre leurs aises dans la réalité. À ne plus les distinguer du rêve, la raison court parfois un grave danger. Comme en témoignent ces guerres menées depuis la nuit des temps, au nom de personnages qui n'ont jamais existé.
C'est plus, plus un commentaire sur la religion
je vois bien.
Que sur les jeux vidéo. Si entre les deux, il y a beaucoup de points communs.
Absolument.
C'est la même chose.
Mm-hmm. Écoutez, merci, Bertrand Saint-Igny d'être venu présenter le dernier. Hugo de la nuit. On pourra en faire un film, je vous le dis, parce qu'il y a des images, il y a des décors, et il y a des dialogues savoureux. Vous lisez de la littérature jeunesse, parfois, Mathurin Bowles?
Pas souvent, non, pas souvent. Mais
il y a des pères.
J'en suis convaincu, non, mais il y a.
Et Saint-Igny en fait partie.
Je m'y précipite.
En tout cas, on était heureux de vous.
Et moi, très heureux d'entendre que le corps décide aussi des fois. Et ça me fait penser, mais je ne sais pas si on est dans le sujet ou pas.
Tous les sujets sont
bienvenus. Mais le corps décide à un moment donné que le corps prenne sa parole.
Le corps décide, mais souvent, pas forcément pour le meilleur.
Oui, peut-être, mais qu'en tous les cas, il y a là une chose qui se situe dans le faire, dans le concret, et que on peut débattre, vouloir, penser que, et puis à un moment donné, il y a l'acte, il y a quelque chose de très concret. Et moi, qui fais du cirque, c'est quelque chose auquel je suis sensible. Enfin, en tous les cas, ça fait écho chez moi. Voilà.
Et en tout cas, chez les adolescents, allez voir souvent dans des classes où les corps sont contraints, où tout pousse de l'intérieur, tout semble vouloir exploser et vivre et être tellement contenu par la peur, par les conventions, par les cadres. Je pense que le cirque et ce type de spectacle, avec des mots aussi, Mathurin Bowles, ou votre littérature, Bertrand Saint-Igny, peuvent rencontrer, croiser tout ce qui peut se passer dans la tête et le corps d'adolescents. Merci d'avoir pensé à eux. Alors on va se quitter, hein, c'est toujours trop court, c'est comme ça. J'allais dire l'école buissonnière, oui c'est une sorte d'école buissonnière, en tout cas pour moi c'est un plaisir de m'aventurer dans vos imaginaires et vos créations, mais les chemins buissonniers cessent à un moment donné, c'est comme ça, mais on peut les retrouver sur le site franceculture.fr, on peut télécharger l'émission, et on retrouvera aussi bien tout ce qu'il faut pour retrouver l'œuvre littéraire de Bertrand Saint-Igny que les endroits où vont se jouer les spectacles, puisqu'il y en a plusieurs de Mathurin Bolz, la tournée, voilà. Le Tambusonnier, c'est toute une équipe, c'est comme au théâtre. Eh oui, Aline Payet, Anne-Laure Chanel à la réalisation, Annie Comi à la préparation, à la technique aujourd'hui, Guillaume Ledu. Il est l'heure de retrouver la dure réalité de l'information grâce au premier journal de la journée sur France Culture. Bon dimanche à tous, bonne semaine, à la semaine prochaine.